Bienvenue à tous et à toutes à ce cinquième épisode du Nerdverse Podcast, un épisode que je vais faire seul. Rudy ne pouvait pas être avec nous pour cet épisode-là, donc on va garder dans le fond notre épisode qu'on voulait faire la revue de Falcon et Winter Soldier, entre autres. On voulait faire une émission vraiment basée là-dessus, on va faire ça moi et lui évidemment, donc on va faire cet épisode-là la semaine prochaine. Mais en attendant, ça me tentait quand même d'enregistrer un petit quelque chose, de partager, de parler de certaines choses quand même de mon côté. De toute façon, c'était privé à l'horaire que j'enregistre quelque chose, donc pourquoi pas y aller de l'avant puis faire un petit bonus épisode, si on veut, de notre côté. Puis un des sujets que je pense que, ben, tu connais, n'importe qui me connaît vont savoir que j'étais un gros maniaque de trailer, de bande-annonce de film. Fait que, juste donner un exemple, à chaque fois qu'on allait au cinéma, que ce soit amis, famille, ma femme, peu importe, puis il disait toujours « Ah, oh, c'est pas grave, il reste comme 10 minutes avant le début du film, on a le temps. » Moi, j'étais comme « Non, 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 non. » On s'en va là pour les bandes-annonces, pour les trailers, parce que je voulais pas en manquer un. Puis surtout dans le temps où ce qu'on n'avait pas accès à Internet non plus, où ce qu'on pouvait pas vraiment les voir à volonté, si on veut, là, sur Internet. T'sais. Puis de toute façon, même aujourd'hui, avec Internet, il n'y a rien de mieux que de voir une bande-annonce sur grand écran avec le son et tout ça. D'ailleurs, c'est une des choses qui me manque énormément du cinéma. C'est de me rendre au cinéma, évidemment, écouter le film, c'est sûr, c'est la raison principale, mais de voir les 4-5 trailers qu'on a avant, c'est toujours, en tout cas pour moi, j'adore ça. Parce qu'il y a plusieurs raisons, évidemment, à ça. Puis une des raisons, je dirais vraiment, c'est... Dans le fond, c'est notre première introduction au film qu'on va voir dans quelques semaines ou dans quelques mois, même des fois dans un an. T'sais. Tout dépendant des bonnes annonces, quand on les voit là, finalement avant la sortie du film en tant que tel. Puis on peut voir, c'est vraiment fascinant de voir l'effort qui est mis pour nous vendre le film, dans le fond. T'sais, parce que combien de fois qu'on a adoré le trailer ou la bande-annonce, mais qu'on a vu le film pour être un petit peu déçu finalement. Combien de fois qu'on a dit « Ah, la bande-annonce, c'était pas mal mieux que le film », tu sais, puis ça arrive très souvent. Mais heureusement, c'est pas toujours le cas. Mais ça fait juste démontrer à quel point que c'est tellement important d'avoir du matériel de promotion efficace, puis qui va accrocher les gens, nous accrocher, puis ça part, pour moi en tout cas, ça part vraiment des trailers de la bande-annonce. Puis, tu sais, dans le fond, c'est un peu un art de faire une bande-annonce de qualité pour nous vendre le produit, puis les studios vont s'y prendre de différentes façons, si on veut. Chaque studio est différent. Certains studios aiment mettre le paquet. Ils vont mettre leur grosse scène d'action dans le film. On va voir le film, puis on a presque tout vu. On est capable de mettre les morceaux ensemble, puis il n'y a plus vraiment de spoilers, si on veut. Mais c'est comme ça qu'ils vendent leur film, puis ça fonctionne quand même. D'autres studios vont aller plus pour le mystère et le côté secret. On en voit à peine. D'ailleurs, je parle pas d'un studio nécessairement, mais J.J. Abrams, qui est un maniaque, si on veut, de presque rien dévoiler dans sa bande-annonce. Puis une de mes préférées, d'ailleurs, je pense, qui me vient en tête comme ça, c'est Cloverfield, qui avait sorti, je pense, comme peut-être 9-10 mois avant le film. Même, je pense, presque un an. Puis cette bande-annonce-là m'avait marqué parce que on voyait pas grand-chose. Dans le fond, on voit juste... dans le fond, je me rappelle bien, là, c'était un party sur un toit. Puis là, soudainement, on entend un gros bruit. Puis on voit une explosion au loin. Puis quand le monde, finalement, il descend en bas, ben finalement, ils se rendent compte que il y a quelque chose qui se passe dans la ville. Puis on voit la tête de la Statue de Liberté qui roule. Puis qui passe à côté d'eux, puis ça coupe là, tu sais. Fait que c'était... Puis il y avait comme une espèce de grosse comme marque de griffe sa tête de la Statue de la Liberté, tu sais. Fait que c'était vraiment bien fait, tu sais. Puis on se demandait c'était quoi, qu'est-ce qui se passait, puis tout ça. Puis ça a pris quand même presque un an avant qu'on voit le film. Puis en tout cas, bref, c'est une de ceux qui me vient en tête comme ça. Puis il y en a plein d'autres, évidemment. Là. Je pense aussi à la première bande-annonce du premier Spider-Man qui avait sorti un an avant. Puis qu'on voit juste, d'ailleurs, je pense que c'est la dernière fois qu'on voyait les deux tours du World Trade Center sur écran, si on veut. Là. D'ailleurs, ils n'étaient pas dans le film quand on a vu le film, mais en gros, c'était Spider-Man là, qui capturait un hélicoptère avec une grosse toile d'araignée entre les deux tours. Fait que c'était juste ça, tout simplement. Puis on voyait Spider-Man se balancer entre les tours, puis Tout le monde, on avait tellement hâte. Puis dans ce temps, il n'y avait pas Internet non plus comme aujourd'hui. Il n'y avait pas les médias sociaux. C'était pas pareil du tout. Fait qu'il fallait attendre ça. Puis c'était vraiment notre seule façon de si on veut, d'avoir ce lien-là avec le film avant que ça sorte. T'sais. Bref, une des raisons aussi pourquoi que je parle de ça, c'est que dernièrement, on a eu beaucoup de bandes-annonces qui ont sorti finalement après tant de. Plusieurs mois en début de la pandémie, parce qu'on n'avait absolument rien comme matériel qui sortait, que ce soit les films, les séries ou les bandes annonces en général, évidemment, tout ce qui était promotionnel, il n'y avait rien du tout, tout était mis en hold. Puis là, dernièrement, on a le droit à plusieurs bonnes annonces aussi, je devrais dire. Puis c'est le fun de voir ça finalement, de voir la promotion recommencer. Et puis d'ailleurs, on voit aussi les studios américains qui commencent à mettre des annonces pour leur film, là, tu sais, comme. Je pense à Fast 9 qui ont sorti une espèce de trailer cette semaine, la semaine passée. Puis on voit Vin Diesel qui fait la narration de la bande-annonce. Puis dans le fond, ce qu'il dit, en gros, c'est t'sais, comme le thème de Fast and Furious, c'est évidemment la famille. Puis il sert de ce thème-là pour revenir au cinéma. T'sais, dire, oh, il n'y a rien de plus le fun que d'être en famille au cinéma, puis de se revoir, de se rencontrer là, puis de partager un moment inoubliable, puis blablabla. T'sais. Puis il y a aussi Universal qui ont fait aussi ce genre d'annonce avec Matthew McConaughey qui interview différents employés de cinéma, puis qui parlent comme quoi qu'ils ont hâte que ça revienne, puis tout ça. Fait que c'est clair qu'aux États-Unis, entre autres, c'est relancé, la business du cinéma est recommencée, puis eux autres, ils vont all-in là-dedans. Là. Peu importe ce qui se passe, à partir de maintenant, on recommence, puis on y va de l'avant. Fait que ça fait en sorte que on a eu le droit à plusieurs bandes-annonces de qualité dans les dernières semaines, dans les derniers quelques mois. Si on se fie à nos sujets à nous, qu'on parle de plus sur le podcast, que ce soit Marvel, DC, entre autres, Star Wars, évidemment, il n'y a pas vraiment dans les temps qui courent. Il y a eu une bande-annonce pour The Bad Batch, qui est la série télévisée, la série de Disney+, excusez-moi, qui va sortir le 4 mai, la série en animation, qu'on va couvrir sur le podcast une fois qu'elle va être terminée, j'ose croire, en juin ou en juillet. Je ne sais pas exactement combien d'épisodes que ça consiste, puis quand est-ce que ça va finir, mais on va évidemment couvrir ça un peu plus tard là, cet été. Donc, mais à part ça, on a eu aussi plusieurs bonnes. Bande-annonce, puis pour différentes raisons aussi. C'est là que je vais en venir un peu avec tout ce sujet-là que je parle en ce moment. Puis une des raisons, c'est que justement, on va parler Black Widow. On va commencer avec Black Widow, tu sais. Puis je pense qu'on en a parlé sur chaque épisode du podcast de Black Widow, puis à quel point que on se demandait si c'était pour sortir en cinéma ou sur Disney+, ou sur les deux en même temps, peu importe, ce qui va finalement être le cas à partir du 9 juillet. Mais aussi, ils avaient déjà fait leur promotion, eux autres, comme Marvel puis Disney. Juste avant la pandémie, ils avaient sorti la deuxième bande-annonce pour Black Widow, qui était en mars, je pense que c'était le 12 ou le 13 mars dans ce coin-là. Fait que là, eux autres, leur promotion était pas mal faite, parce que le film sortait en début mai, quelques semaines plus tard à peine. Puis là, il y a eu la pandémie, tout est arrêté. Puis là, ben, t'as le danger aussi, comme que je parlais tantôt, justement, de si on refait d'autres trailers, d'autres bandes annonces, on est comme, OK, mais comment est-ce qu'on va. Dans le fond, comment est-ce qu'on va capturer l'intérêt des gens à nouveau? Parce que si on revient à ce que Rudy a dit à quelques reprises sur nos différents épisodes de podcast, qu'il sentait que l'intérêt diminuait de son côté chez d'autres personnes aussi, comment est-ce qu'on va aller capturer l'intérêt à nouveau, que les gens aillent voir le film? Ou le loup sur Disney+, le 9 juillet, dans le fond. Fait qu'ils ont sorti une nouvelle bande-annonce quelques semaines passées, puis ça démontre exactement, à mon avis en tout cas, pourquoi que Marvel Studios, en ce moment, puis depuis quelques années, je dirais, sont une coche au-dessus de tout le monde quand que ça vient à l'art de faire des superbes bandes-annonces ou des trailers. Là, t'sais. Parce qu'en fond, ce qu'ils ont fait, ils ont réutilisé des scènes de d'autres films de son passé, fait que ce soit des films d'Avengers, entre autres, Captain America Civil War. Ils ont même fini une des scènes avec la scène de Endgame juste avant qu'elle se sacrifie là, pour. En tout cas, comme qu'on voit dans le film Endgame, avant sa mort finalement. Puis là, après ça, il embarque dans la bande-annonce avec une grosse musique d'ambiance. Puis dans le fond, c'est le genre de bande-annonce là, que tu peux écouter, juste la musique, là, tu regardes même pas les images, puis ça fait la job. Puis c'est là qu'on voit qu'ils ont fait leur travail. Parce que c'est sûr que les images, quand tu regardes les images, c'est un gros plus, évidemment. Mais on regarde le trailer sans la musique, ça fonctionne pas. Mais si on regarde, si on écoute juste la musique, on voit être, puis les paroles qui sont dites dans le trailer, ça fait un effet quand même, là. Fait que c'est vraiment intéressant pour ça. Puis si, je vais faire une petite parenthèse là-dessus, si on revient un petit peu à, pour moi, vraiment une de mes bandes-annonces préférées ever, si on veut, moi je dirais peut-être ma préférée, c'est le dernier trailer qu'ils ont fait pour Endgame, qui avait sorti en mars 2019. Puis c'était quelque chose, toute cette publicité-là, cette promotion-là pour le film, parce qu'il voulait tellement rien dire, puis tellement rien montrer aux gens après ce qui avait arrivé dans Infinity War. Ils voulaient garder ça le plus secret possible, évidemment. Donc, c'était tout un challenge pour eux de faire une bande-annonce, même s'il n'y avait pas nécessairement besoin. Je pense que n'importe qui aurait été voir le film, peu importe s'il voyait aucune image, peu importe, en cause de la fin d'Infinity War, justement, les gens y étaient vendus. Mais tu dois quand même faire la publicité pour ton film, le promouvoir et tout ça. Donc, ils ont fait deux bandes annonces. La première était très bonne quand même, mais il n'y avait vraiment rien. Il y avait quelques nouvelles scènes, mais ça montrait absolument rien. Puis même, ça disait très, très peu de l'histoire. Mais la deuxième, c'était vraiment ils ont été sur le côté nostalgique, puis ils ont montré des scènes des différents films passés. Ils ont mis le focus sur les trois principaux Avengers, que ce soit Captain America, Thor, puis évidemment Iron Man. Puis ils ont mis toutes les. Il a fait une touche comme de noir et blanc pour montrer que c'était le passé. Puis il y avait comme le rouge qui ressortait pour faire sortir Marvel Studios. Puis là, ben, ils ont mis quelques scènes du film. Puis ils ont mis comme un montage là, qui nous préparait finalement au film. Mais il n'y avait presque rien. Comme quand tu regardes le film, puis après ça, tu reviens, puis tu regardes ça. T'es comme on n'a rien vu, là, on savait rien. Mais pourtant, on était tous. Excusez mon anglicisme, on était tous primés, on avait tellement hâte à ce film-là. En tout cas, moi j'avais extrêmement hâte, puis les gens qui me connaissent le savent, j'en ai parlé pendant des mois avant. Puis les semaines avant le film, je lâchais pas d'en parler, là. Mais en tout cas, ça a fait le travail, puis ça va arriver des fois que je vais encore la regarder, là, cette bande-annonce-là, tellement qu'elle m'avait marqué. Fait que tout ça pour venir à Black Widow, ils ont pris le même principe, si on veut. Ils ont fait la même chose. Ben, pas la même chose, mais un peu le principe similaire de prendre des scènes de films passés, puis après ça, montrer quelques nouvelles scènes, mais aussi plusieurs scènes réutilisées d'un autre angle des bandes-annonces qu'on avait vues avant, pour dans le fond raconter la même histoire, si on veut, qu'on sait déjà à propos des autres trailers qui avaient sorti, puis juste en rajouter un peu plus pour vraiment nous inciter à aller voir le film, t'sais, dans quelques mois. Puis évidemment, la bande-annonce finit sur une grosse scène, passe dans les airs, là, puis on voit le Taskmaster qui affronte Black Widow, puis tout ça. Puis quand on voit le titre, si on veut, la title card qu'on appelle en anglais de Black Widow, t'as comme le remix de la chanson des Avengers en russe, si on veut, là, pour vraiment démontrer, mettre l'emphase sur Black Widow. Puis, en tout cas, c'est super bien fait. Fait que, tu sais, juste regarder ça, puis de voir des gens réagir à cette bande-annonce-là, puis faire comme, OK, comme, on ne sait pas à quoi s'attendre, puis on a hâte à ce film-là. On a vraiment hâte, là. Puis après tant de mois de pas en parler. Donc, c'est là qu'on voit que c'est un succès, puis ils n'ont pas eu à nous montrer grand-chose de plus. Ils n'ont pas vraiment pas montré grand-chose de plus. On va aller voir ce film-là en juillet, puis on n'aura pas vraiment tout vu le film. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose de spécial, puis quelque chose que Marvel Studios se démarque tant qu'à moi des autres studios par rapport à ça. Mais là, comme j'ai dit tantôt, il y a certains studios qu'eux autres font l'inverse. Ils nous montrent les gros morceaux, si on veut, les gros bouts du film qui vont venir nous chercher, puis c'est ça, c'est le même qui vont vendre leur film. Puis une franchise qui est très, très bonne pour ça, c'est les films de Fast and Furious. Ils ont toujours fait ça, surtout dans les derniers films. Là, on s'entend que les films sont rendus assez rocambolesques puis spectaculaires. Ça tire quasiment un mélange d'Avengers puis Mission Impossible, si on veut. Mais personnellement, moi, j'adore cette franchise-là. Puis j'aime que la franchise ne. Ça se prend plus au sérieux. D'ailleurs, on va parler de la bande-annonce de Fast and Furious, de Fast 9, je devrais dire. Puis même dans la bande-annonce en tant que telle, ils ne se prennent pas au sérieux. Là, on voit le personnage de Tyrese, qui est Roman, parle de genre, oh, on a tiré une grosse, voyons, un gros coffre-fort avec des autos, on a chassé un sous-marin, on a fait tomber des autos de l'avion avec des parachutes, etc. Puis, fait que dans le fond, il fait juste démontrer à quel point de ce qu'ils ont fait dans les derniers films, c'est complètement ridicule. Puis le fait qu'ils trouvent ça ridicule, ben dans le fond, c'est qu'ils pensent pour nous. T'sais, ils parlent pour nous un peu là-dedans. Fait que c'est pour moi, personnellement, ça fonctionne bien parce que ces genres de films-là, s'ils veulent fonctionner, faut pas qu'ils se prennent au sérieux dans cette situation-là. Puis c'est ce qu'ils font. Fait que ça, pour moi, ça veut dire qu'ils ont, ils ont pris le tournant, là, si on veut, là, puis sont all-in dans cette direction-là. Puis on regarde la bande-annonce de F9, de Fast 9, on voit à quel point que ça va être. Ça va être quelque chose, là. Puis dans la bande-annonce, dans le trailer, on voit clairement, là, comme il nous montre un paquet d'actions. Puis je pense qu'il nous montre quelques-uns des très gros moments du film. Je suis pas en train de dire qu'on a tout vu le film, là. Mais on regarde ça, puis on se dit, bon, ben, je veux dire, est-ce qu'il nous reste quelque chose? Je veux dire, ils ont carrément révélé que Han y revenait. Ils nous montrent une grosse scène où ce qu'ils font, ils font flipper une espèce de, je sais pas quel genre de camion, là, que c'est une espèce de train, là, je sais pas trop, là. Puis ils font flipper ça avec deux autos collées dessus. En tout cas, c'est assez, c'est très dur à décrire, si on veut, sur le podcast. Mais en tout cas, je vous invite à aller voir la bande-annonce pour que vous compreniez, si vous ne l'avez pas déjà vu, évidemment. Puis c'est complètement l'inverse. Là. On nous lance toute l'information, on sait un peu ce qui se passe. Fait qu'on va aller voir ce film-là. On ne s'entend pas à des gros secrets, on ne s'entend pas à des gros spoilers, puis il va peut-être en avoir un petit peu, puis si c'est le cas, tant mieux. Mais « what you see is what you get », comme on dit en anglais. Puis c'est bien correct, ça marche pour ces films-là, parce que c'est ça qui va vendre. Si tu veux voir un film de Fast and Furious, ben tu veux voir ces scènes-là dans la bande-annonce. Tu veux pas qu'il laisse planer les mystères. « Qu'est-ce que Dom va faire face à cette menace? » Là, on s'en fout de ça. On va le découvrir dans le film, mais c'est pas grave. Il n'y a pas besoin de gros mystères dans ces films-là. Fait que pour eux autres, ça fonctionne. Fait que ça, c'est correct aussi. Fait que ça devient toujours, comme je disais tantôt, cette espèce de l'art de faire des bandes-annonces qui va fonctionner ton public cible, si on veut. Fait que là, tu sais, on a Black Widow, on a Fast 9 que j'ai parlé. Puis il y a quelques autres aussi qu'on a eu. D'ailleurs, on a Loki, qui est la série Disney+, qui est la prochaine, dans le fond, à sortir de Marvel Studios, qui va sortir le 11 juin sur Disney+. Puis là, on voit l'effet inverse. On revient vraiment à l'élément de Marvel Studios, puis le côté secret, là, t'sais. Surtout Loki, on s'entend que ça va être un show qui va être très axé sur les secrets, puis le mystère, puis tout ça. Puis je ne veux pas trop aller en détail, parce que, ben, premièrement, parce qu'il y a bien des choses que je ne sais pas, évidemment, comme tout le monde. Mais aussi, on va en parler un peu plus proche, comme vraiment fin mai, début juin. On va faire un épisode qui va parler de à qu'est-ce qu'on va s'attendre pour le show en tant que tel, certaines prédictions. On va pas aller trop loin des prédictions parce qu'on finit par toujours se tromper. Là, on l'a vu avec WandaVision, puis même un petit peu avec Falcon et Winter Soldier. On avait raison sur certaines choses, mais on avait plein qu'on n'avait pas raison non plus. Puis c'est la beauté de faire de deviner ça, de faire des spéculations entre autres, puis tout ça. Mais en même temps, on veut vraiment focusser à donner... dans le fond, à faire un peu le hype, si on veut, de la série, puis juste de parler de qu'est-ce qu'on a hâte de voir, puis qu'est-ce qu'on espère voir aussi, et non pas essayer de deviner carrément ce qui va arriver. Mais pour venir à Loki, c'est une série qui va être de 6 épisodes, puis si on se fie à ce qu'on a déjà eu de WandaVision, entre autres, puis de Falcon and Winter Soldier, qui étaient deux styles très différents, mais je pense que ça a été quand même deux très gros succès, ben je suis pas inquiet qu'on va être 3-3 avec Loki. Fait qu'en gros, on voit dans la bande-annonce qu'on va suivre la version de Loki qui a pris le Tesseract, le cube, dans Endgame, puis qui a disparu, puis là, on va voir les dommages que ça a fait. Fait qu'on voit entre autres que ça a supposément créé différentes branches, là, si on veut, là, dans le timeline, fait que différents univers parallèles. Fait que est-ce qu'on a déduit que c'est ça qui va créer le multiverse pour éventuellement mener au film de Doctor Strange ou même avant ça, Spider-Man No Way Home? On ne sait pas. Si on regarde la bande-annonce, ça a l'air de ça. Mais on pensait aussi que WandaVision était pour nous emmener dans cette direction-là. Puis finalement, ça c'est pas ça qui est arrivé, mais pas pantoute. On n'a même pas du tout mentionné Doctor Strange ou le multiverse ou quoi que ce soit. On va se garder une petite gêne avant de penser que c'est ça. Mais Kevin Feige, ou Kev, comme je l'appelle toujours, a mentionné que Loki avait un lien à voir avec le Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui est le deuxième film de Doctor Strange. Donc, on peut penser là, que c'est peut-être de là que ça va venir. Mais bref, on verra. Mais encore une fois, une bande-annonce pour moi qui a frappé dans le mille, ça, c'était super. Ça révèle pas trop, juste assez pour te donner le goût vraiment d'écouter la série. De voir Owen Wilson aussi parler avec Loki, évidemment. Ils ont plusieurs scènes dans le trailer, si on veut, qui parlent un à l'autre. On voit déjà qu'il y a une bonne dynamique. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. J'étais pas sûr au début de quand on a su qu'Owen Wilson se joignait à la série. J'étais pas trop sûr à quoi m'attendre. Mais là, on voit évidemment qu'ils savaient ce qu'ils faisaient Marvel Studios quand ils ont engagé Owen Wilson pour cette série-là. Puis on voit que la dynamique avec Tom Hiddleston, qui joue Loki dans la série, évidemment, on voit que c'est une dynamique très naturelle. Puis une bonne chimie entre les deux. Fait que je pense que ça va être le côté fort, si on veut, de la série. Puis Kev, il nous a dit que c'était pour être un espèce de thriller. Je suis pas trop crime thriller, qu'il disait. Je suis pas trop sûr que j'ai vu ça dans les deux bandes-annonces qu'on a vues jusqu'à date. Mais bref, on verra. Ce qu'on peut s'attendre, c'est que, comme qu'on l'a vu dans cette bande-annonce-là, c'est que Loki va devoir aider la TVA, qui est la Time Variance Authority. Pas mal sûr, je pense que c'est Authority, là. Je ne suis pas 100% sûr, mais en tout cas, c'est Time Variance Authority. C'est ça, Time Variance Authority, exactement. Puis, dans le fond, les aider à fixer un peu, à réparer les dommages qu'il a fait en se promenant avec le Tesseract. Fait qu'on... On verra ce que ça va donner. Mais vraiment hâte de voir cette série-là. Encore une fois, la bande-annonce a fait son travail. C'était super bien fait. On voit que les effets, là, excuse-moi l'anglicisme, mais c'est top-notch. C'est de très grosse qualité. On voit que Disney+, ils ont mis le paquet pour ces séries-là. Puis j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. Puis on verra ce que ça va nous mener. Parce que là, on a déjà deux séries de fêtes. Avec Loki, ça va être la troisième. Puis après ça, là, pour Marvel Studios, ça arrête pas. Là. On en a juste pour vous dire, là, on a entre Loki qui est en juin, puis Spider-Man No Way Home, qui est en qui est en décembre. Bon, on a quatre films. Puis on a quatre séries. Là, on a trois séries qui est Loki, Miss Marvel, puis Hawkeye. Puis on a aussi une série en animation qui est What If. Plus les quatre films qu'on a, Black Widow, Shang-Chi, qu'on va parler bientôt, en cause qu'il y a une bonne annonce pour ça aussi, Eternals évidemment, puis Spider-Man No Way Home. Donc à partir de juin, là, ça n'arrête pas. Fait qu'on a une petite pause de 6-7 semaines, 7 semaines entre Falcon et Winter Soldier, puis Loki, puis je pense une pause qui est correcte en pensant à tout ce qu'on va avoir là, à partir de juin, juste pour Marvel Studios. Fait que, ben dans ce cas-là, allons tout de suite à Shang-Chi, vu qu'on a eu cette bonne annonce-là aussi la semaine dernière à peine. Puis, pour ceux qui me connaissent, je pense que j'en ai parlé sur un des épisodes passés du podcast. Pour moi, c'est la série que j'ai le plus hâte de... Excuse la série, mon Dieu. C'est le film que j'ai le plus hâte. C'est mon projet, dans le fond, que j'attends le plus en 2021 de Marvel. Pourquoi? C'est un de ceux que je connais le moins. À propos d'eux, je mentirais si je dirais que j'avais lu des comics de Shang-Chi avant de savoir que le film se faisait. C'est pas le cas du tout. J'avais déjà entendu le nom. Je l'avais vu ici et là dans certains comics des Avengers, mais c'est tout. J'ai pas lu en tant que tel sur lui. Fait que quand j'ai appris ou quand les rumeurs ont commencé en 2019 qu'il ferait un film sur lui, ben évidemment, curiosité, je me suis renseigné un peu sur le personnage. Puis c'était vraiment intéressant. Fait que dans le fond, Shang-Chi, c'est le maître de Kung Fu de Marvel. C'est vraiment quand on parle d'arts martiaux, c'est vraiment le plus grand, si on veut, le meilleur dans ce domaine-là, le plus fort dans ce domaine-là pour Marvel. Donc c'était vraiment intéressant de voir qui s'enlignait vraiment dans cette direction-là pour ce film-là. Puis il y a un certain côté mystique aussi autour de ça. Puis de ce qu'on voit de la bande-annonce, ben ils vont y aller all-in dans cette direction-là aussi. Puis on voit différents styles. Moi, là, ce qui m'a frappé quand j'ai vu cette bande-annonce-là, c'est le style en tant que tel. Ça ressemblait pas vraiment à rien qu'on avait déjà vu de Marvel Studios, comme les arts martiaux, juste de voir les effets, la façon que les scènes de bataille sont filmées, même si on a vu comme c'était juste des petits bouts ici et là dans la bande-annonce, mais de voir la façon que c'était fait, c'était très différent de ce qu'on était habitué de voir dans Marvel Studios pour les scènes d'action. Autant qu'ils sont très bonnes puis qu'ils sont forts là-dedans, ben souvent, quand on voit une scène de bataille dans, je dirais, la plupart des films de Marvel Studios, c'est comme coupé assez rapidement, tu sais, comme il y a beaucoup de coupage entre les scènes. C'est normal, tu sais, ça prend tellement pour faire ces scènes-là, que ce soit les stunt doubles, comme qu'on dit, ou en tant que tel, ou les acteurs, puis tout ça. Donc, c'est pas évident de mettre ça le plus réaliste possible. On peut pas tout faire comme dans John Wick, où ce que Keanu Reeves, il fait carrément toutes ses scènes, ou presque. De là, pourquoi que la caméra coupe pas vraiment quand il se bat, ou des films comme The Raid, où ce que c'est vraiment, les acteurs ont engagé carrément pour ça. Donc, il y a pas vraiment de coupage, c'est parce qu'ils sont capables de le faire à 100%. T'sais. Fait que de voir ça, c'était assez intéressant. Puis l'autre côté aussi, un des côtés qui m'attire, que j'ai vraiment hâte de voir de ce film-là, ben c'est les acteurs qui sont dedans. Puis l'acteur principal qui est Simu Liu, qui est canadien d'ailleurs, vient de Toronto. Puis d'ailleurs, si vous le connaissez pas, si vous ne savez pas c'est qui, je recommande fortement d'écouter la série Kim's Convenience. Disponible sur Netflix. Je pense qu'il y a 4 ou 5 saisons disponibles en ce moment. Écoutez, c'est superbe. Là. C'est un sitcom, là. C'est vraiment comédie, mais ça s'écoute super bien. C'est vraiment le fun à écouter, puis on le voit. C'est un des personnages principaux là-dedans, puis il se démarque beaucoup. Fait que ça va vous donner une idée de le genre d'acteur que c'est. Puis quand on le voit dans la bande-annonce du film de Shang-Chi, on voit un autre côté un petit peu. On voit pas trop son côté comique. On voit plus son côté mystérieux, puis évidemment, quelques scènes où est-ce qu'il va se battre, là, tu sais. Puis d'ailleurs, il a fait beaucoup de training. Il s'est entraîné beaucoup. Il a fait plusieurs mois d'entraînement pour différents styles d'arts martiaux pour pouvoir faire le plus possible ses scènes lui-même. Évidemment, il ne peut pas toutes les faire. Mais d'ailleurs, on voit une des scènes dans le film. Il est dans un métro, puis il y a une des scènes où il se bat, puis on voit l'espèce de, excusez-moi l'anglais, mais le double kick, puis après ça, le double punch, là. C'est lui qui le fait, là. Il s'est pratiqué à faire ça, puis tout ça, entre autres. Puis il y a plein d'autres scènes comme ça. Ça a l'air que c'est lui qui se bat là-dedans. Fait que c'est le fun de voir ça. Puis je suis vraiment curieux de voir où est-ce que Marvel Studios, jusqu'à quel point qu'ils vont oser amener ça. Puis l'autre, je suis pas trop inquiet pour le film, mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont amener ça après le film. Comme une fois qu'on va voir Shang-Chi avec les Avengers, entre autres, ou dans d'autres projets, ou quoi que ce soit Avengers ou un autre film, peu importe, avec quelqu'un d'autre, comment est-ce qu'ils vont gérer ces scènes d'action à lui dans ces films-là, tu sais, si c'est pour être plus... ça va être plus général comme qu'on voit d'habitude, ou ça va être plus comme qu'on va voir dans Shang-Chi. Fait que j'ai hâte de voir la balance qu'ils vont trouver, mais je pense avant tout, je pense qu'il faut voir le film pour se faire une idée de à quoi s'attendre vraiment. Mais vraiment intéressant. Puis évidemment, un autre aspect qui m'intrigue beaucoup, puis quand ils ont annoncé ça, c'était en juillet 2019, le San Diego Comic-Con, où ce qu'ils ont annoncé, paquet de films, évidemment, qui ont été retardés à cause de la pandémie depuis ce temps-là. Mais quand ils ont annoncé Shang-Chi, une des choses qu'ils ont annoncé, c'est qu'on verrait le vrai Mandarin qu'on a vu dans Iron Man 3. La première moitié du film, c'est super, joué par Sir Ben Kingsley, qui était superbe dans le rôle. Il était menaçant. Moi, je me rappelle avoir... D'ailleurs, c'est une des bonnes bandes-annonces de Marvel Studios, c'est Iron Man 3. Puis moi, je sais qu'il y a bien des gens qui aiment plus ou moins ce film-là. Moi, je l'aime beaucoup. Puis une des raisons que le monde ne l'aime pas nécessairement, c'est justement à cause... Là, je m'en vais là, mais en cause de la révélation que le Mandarin, c'est pas vraiment le Mandarin, c'est un acteur qui joue le rôle. Puis dans le fond, c'est juste un sous-lon, si on veut, qui est juste un acteur qui est payé pour faire ça, puis... Il est vraiment pas menaçant, finalement, tu sais. Fait que c'est sûr que ceux qui voulaient voir le vrai Mandarin dans Iron Man 3 étaient très déçus, puis ça allait laisser un goût amer à plusieurs personnes. Moi, personnellement, je suis un de ceux qui a aimé le twist. Je trouve que ça a bien sorti, j'avais trouvé ça bon. Puis j'étais pas un gros connaisseur de Mandarin, pareil, dans ce temps-là. Fait que ça m'avait pas vraiment dérangé en tant que tel. Je prenais pas ça comme très au sérieux encore dans ce temps-là non plus. C'est en 2013, ça, tu sais. Fait que j'avais pas une grosse connaissance autant que j'en ai aujourd'hui. Puis, mais bref. Fait quand ils ont annoncé en 2019 que le vrai Mandarin était pour venir, puis quand le titre a été confirmé que c'était Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, ben là, ça m'a vraiment... Mon niveau d'excitation, on va le dire de même, là, il a monté pas mal parce que, un, on va voir le vrai Mandarin, même si Iron Man n'est plus là, c'est une façon originale de le ramener dans le portrait malgré tout. Parce que, je reviens à Iron Man 3 un peu, parce qu'après le film, il avait fait, dans ce temps-là, dans les premiers phases 1 puis 2, début de phase 2 de Marvel, des films de Marvel Studios, il faisait des petits films de quelques minutes qu'on peut retrouver d'ailleurs. Sur YouTube, puis un de ces films-là avait été fait après, le titre m'échappe, là, mais il avait été fait après le film d'Iron Man 3, puis je sais pas si c'est en cause qu'ils ont vu la réaction des gens, puis ils ont dit, bon, on va rectifier la situation, ou c'était prévu comme ça, mais on voit le personnage de Sir Ben Kingsley qui est en prison après les événements d'Iron Man 3, puis il y a quelqu'un qui vient le voir. Puis, dans le fond, lui dit que le vrai Mandarin existe, puis qu'il est pas vraiment pas content qu'il ait joué son rôle finalement, qu'il l'ait impersonnifié comme ça. Puis, il était pas content de ça du tout. Puis, dans le fond, il sort de prison pour l'emmener voir le vrai Mandarin. Est-ce qu'on va voir ça dans le film de Shang-Chi? Je compterais pas là-dessus, mais ça serait. Je pense que ça serait un petit clin d'œil vraiment le fun, que ça serait vraiment un bon lien aux autres films, d'ailleurs à Iron Man 3, puis juste vraiment renforcer le lien du Mandarin dans le MCU. Donc on va voir si ça va se produire. Puis évidemment, une des choses aussi que, excusez-moi, une des choses aussi qui a été mentionnée depuis le tout premier Iron Man, c'est les Ten Rings. On le voit d'ailleurs dans le premier Iron Man, c'est le nom de l'organisation terroriste qui le kidnappe au début du film. On voit d'ailleurs le signe en arrière quand les caméras, là, quand ils filment Tony Stark puis qu'eux autres parlent, on voit l'enseigne en arrière. Puis évidemment, c'est mentionné aussi dans le troisième Iron Man avec toute cette histoire-là. Puis on le voit aussi, c'est très discret, mais dans le film de le premier Ant-Man, un des personnages qui est là pour, dans le fond, le nom m'échappe, là. J'ai trop de choses dans la tête en même temps ça, pour faire le podcast, mais dans le fond, le Yellow Jacket, là, si on veut, le méchant du film de Ant-Man, il veut vendre sa formule, là. Il a réussi à trouver la formule pour rapetisser, dans le fond, là, dans le fond, la même formule de Hank Pym, là, que Ant-Man se sert. Puis, sont comme un groupe qui sont là pour voir la démonstration, si on veut, de cette formule-là. Puis une des personnes, quand Ant-Man se bat avec eux, bon, on voit le tatou de Ten Rings sur cette personne-là. Puis c'est très vite fait, là. Mais d'ailleurs, Kev, il en parle comme un des liens que le Ten Rings y a par rapport à ça. Quand il a parlé de ça à San Diego, à Comic-Con 2019, il a dit... qu'on avait vu le Ten Rings dans certains films, puis il parle de ce lien-là avec Ant-Man. Fait que c'était vraiment intéressant de voir ça. Fait qu'on va voir ce que ça va aller. Puis un des changements qu'ils ont fait d'après la bande-annonce, puis je suis pas mal, on verra, mais je suis pas mal certain que c'est le cas, c'est que dans les comic books, évidemment, c'est des bagues, c'est des anneaux. Mais dans ce film, dans le film, c'est comme des bracelets. Fait qu'on voit à un moment donné une scène où on voit juste un bras, puis on voit cinq bracelets qui brillent c'est comme une couleur mauve. Donc ça serait, il y en aurait cinq chaque bras, donc ça serait ça les Ten Rings. Puis ça va être quoi leur rôle dans le film? On ne sait pas. Dans les comics, ils ont un côté magique, si on veut, mystique. Ils ont des pouvoirs assez forts aussi. Donc la personne qui a les 10 bagues, les Ten Rings, sont assez forts. Donc quand que c'est Mandarin qui les a, bien évidemment il y a beaucoup de pouvoir magique qui vient avec ça. On va voir dans quelle direction qu'ils vont se diriger dans le film. Ils ont pris certaines libertés pour changer possiblement de bague à bracelet, mais je pense que c'est une bonne chose aussi, parce que on vient d'avoir Thanos qui ramassait les Infinity Stones, les pierres. Fait que peut-être qu'ils pensaient que c'était pour trop ressembler à ça. Puis étant donné qu'on n'a jamais vu vraiment les bagues dans aucun des films, ben pourquoi pas se permettre ce changement-là. Puis on va se dire les vraies choses. Quand on vient à un combat, puis tout ça, des scènes de bataille, ben je pense que c'est plus pratique de les avoir autour du bras que de les avoir dans les doigts. Fait que je pense qu'il y a un côté pratique à ça aussi. Puis bizarrement, ben dans le trailer, on ne le voit pas vraiment. On voit juste vraiment une courte scène. Mais quand ils ont sorti l'affiche, le poster pour Shang-Chi, on le voit en costume. Le costume il est super là, dans sa simplicité, mais c'est vraiment un beau costume. Mais le costume, les manches sont comme au coude. Hein, puis il y a les bras à découvert. C'est comme si le costume était fait pour qu'il ait besoin d'espace sur ses bras pour avoir éventuellement, par la fin du film, 5 anneaux sur chaque 5 bracelets sur chaque bras. On ne sait pas si Shang-Chi va se retrouver avec les Ten Rings à la fin. On verra. Mais bref, ça va rendre les choses très intéressantes. Puis juste pour mentionner aussi, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Shang-Chi, c'est, comme je disais tantôt, le maître du Kung-Fu. Il n'y a pas vraiment de pouvoir en tant que tel. Il est juste vraiment fort, évidemment. Puis il sait se battre comme personne d'autre le sait. Mais dans des versions plus récentes des comics, il y a le pouvoir de se multiplier. Comme, c'est des clones, mais c'est plus des... c'est comme, je pourrais, des illusions, si on veut. Là, un peu comme Doctor Strange a fait dans Infinity War. Mais ils sont physiques. Là. Ils peuvent se battre aussi. Là. Fait qu'ils peuvent servir de eux pour battre plusieurs personnes en même temps, si on veut. Fait que je me demande s'ils vont aller dans cette direction-là ou pas pour le film, mais peu importe, c'est un pouvoir qu'il y a dans les comics, fait qu'on va voir s'ils se rendent à ça. Mais bref, on a aussi Awkwafina qui est dans le film, puis on la voit juste dans quelques scènes, mais les fois qu'on la voit, ben Awkwafina est Awkwafina. Moi, je l'adore dans ses différents films qu'elle a fait, d'ailleurs, dans Crazy Rich Asians. Moi, je trouve qu'elle vole le show. Là. C'était vraiment bon. Le film était très bon, mais son personnage, il était vraiment quelque chose. Moi, c'est quand j'étais voir ça au cinéma, là, j'étais comme une bonne surprise, une belle surprise, ce film-là. Puis elle est une des grosses raisons pour. Bref, c'était vraiment bon. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire là-dedans. Puis j'ai comme l'impression qu'avoir un rôle un peu plus... Il y a un peu plus... qu'on ne sait pas encore, qu'on va apprendre dans le film éventuellement. Donc, on verra si je me trompe ou pas dans quelques mois. Le film sort le 3 septembre. Mais bref, j'ai l'impression qu'on va l'avoir un petit peu plus, si on veut. Donc, je pense que ça couvre, en gros, la bande-annonce pour Shang-Chi. Vraiment hâte de voir le film. Vraiment, c'est juste un petit teaser qu'on appelle. On va voir une autre bande-annonce, probablement plus proche, je dirais peut-être en juillet. Mais ça va être intéressant de voir... ce que ça va donner. Donc, bref, on va voir rendu là. Donc, ça couvre pour Shang-Chi. Puis, un autre bande-annonce qui est sorti, puis ils ont fait, encore une fois, ça démontre une autre façon de faire. C'est pour The Suicide Squad. Dans le fond, fait que Warner Brothers, un de leurs seuls films de DC cette année, The Suicide Squad, qui va sortir au mois d'août. Je pense que c'est le 8 août, si ma mémoire me sert bien. Ils ont décidé de sortir deux bandes-annonces en l'espace de, je pense, une semaine. Puis on parle de deux bandes-annonces complètes de 2 minutes quelques. Très différentes l'une de l'autre. Puis la raison est simple, c'est que la bande-annonce initiale qui est sortie, la première, était rated R, fait que 18 ans et plus, si on veut. Ils appellent ça un Red Band Trailer, si on veut. Là, fait que quand tu regardes la bande-annonce, évidemment, il y a des côtés, c'est plus violent. On voit les scènes où ce que, à un moment donné, King Shark, il prend quelqu'un puis il le sépare en deux carrément, puis on le voit dans la bande-annonce. T'sais. Fait que, dans le fond, c'est juste pour pouvoir permettre de montrer ces éléments-là, puis juste de montrer aussi, bon, ben c'est... C'est là qu'on s'enligne avec le film. Le film va être rated R, va être 18 ans ici, puis 17 ans et plus aux États-Unis, entre autres. Puis c'est là qu'ils s'en vont avec ça. Puis c'est bien correct. Je pense que s'il y a un film qui peuvent le faire, c'est bien celle-là. Mais ils ont sorti une deuxième bande-annonce qui était normale. On va dire PG, si on veut, là, tu sais, là, que tout le monde peut voir, si on veut. Ben, tout le monde, pas les jeunes enfants, évidemment, là. Mais, puis moi, personnellement, j'ai préféré celle-là, la deuxième, de loin, parce que justement, je trouvais que ça l'histoire que la bande-annonce racontait était mieux faite. Comme quand j'ai fini d'écouter cette bande-annonce-là, je suis comme, OK, là, j'ai hâte de voir le film. J'ai hâte de voir ce que ça s'en va, puis j'ai hâte de voir ces personnages-là, même si on sait que dans The Suicide Squad, James Gunn s'est fait dire par le studio, écoute, tu peux carrément tuer, entre guillemets, n'importe qui dans le film. Évidemment, pas lui, lui-même, là, mais je veux dire, en tant que réalisateur du film, il n'y a pas personne qui est à l'abri. N'importe quel personnage peut mourir dans le film. Parce que The Suicide Squad, c'est un peu ça. C'est des criminels, si on veut, qui sont rassemblés par Amanda Waller. Puis elle, dans le fond, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée sa Suicide Squad pour des missions que le gouvernement n'oserait pas faire parce qu'il ne voudrait pas trop dangereux, justement. D'ailleurs, le nom de Suicide Squad vient de, en gros de là. Puis une des raisons de ça aussi, c'est si, dans le fond, eux autres, ils meurent dans le processus, ben c'est pas grave. Il n'y a personne qui s'en rend compte. On efface les dossiers. Il est en prison à vie de toute façon. Puis on oublie ça. Il n'y a personne qui s'en est, qui le sait. Ces missions-là sont top secrètes. Ils n'ont pas été, évidemment, dit au public. Donc ça, c'est une des choses que James Gunn s'est fait dire. Là, comme tu peux faire ce que tu veux avec les personnages. Donc, c'est assez intéressant parce que quand il y a des personnages importants comme Harley Quinn, entre autres, Peacemaker que John Cena joue, qui va avoir sa propre série d'ailleurs, est-ce que ça veut dire qu'il va survivre? Pas nécessairement. La série pourrait être un prequel et se passer avant le film. Donc, je suis pas prêt à dire qu'il va survivre le film, mais ça donne une petite idée quand même. T'sais. Puis on a Idris Elba qui joue dedans aussi, qui est un excellent acteur. Donc, est-ce que son personnage va survivre? Je sais pas. On a King Shark qui est joué, ben la voix, c'est Sylvester Stallone qui le fait. Évidemment, King Shark, le personnage, il est tout, c'est tout des effets. Là. C'est un personnage CGI. Il serait très dur d'avoir un... Ce serait pas très joli un vrai costume de requin là, dans le film en tant que tel. Mais écoute, il y a plein de personnages comme ça qui reviennent. Tu sais, Captain Boomerang... Rick Flag, je me demande, je sais pas trop c'est quoi exactement. C'est-tu encore lui le leader, slash que c'est le seul qui est du bon côté puis qui amène eux, ou s'il a fait de quoi puis il est aussi criminel à Star puis il fait partie du groupe. Ça, je sais pas. Mais tout ça pour dire que de voir la façon qu'ils ont fait les deux bandes-annonces, comment est-ce qu'une mettait l'emphase sur le look, puis c'est comme, OK, on est rated R, puis on va vous montrer pourquoi. Puis l'autre est plus général, puis on va vous conter un peu plus l'histoire puis à quoi vous attendre du film. Moi, j'appréciais plus la deuxième, mais plusieurs personnes ont apprécié plus la première, puis c'est bien correct. Puis ça fait en sorte qu'il y en a pour tous les goûts, puis c'est parfait comme ça. Fait que c'est une autre façon de faire qui est super intéressant. Fait que dans tous les films justement que je viens de parler, mais dans le fond, chaque bande-annonce, si on veut, a été faite d'une façon différente, puis pour aller chercher le public, évidemment, pour les accrocher de différentes façons. Fait que c'est ce qui rend les choses intéressantes, puis c'est ce qui fait en sorte que quand on va retourner au cinéma, puis que COVID va être derrière nous, puis qu'on sera plus inquiet d'aller au cinéma, puis on va être une salle comble, puis qu'on va s'asseoir quand les lumières vont fermer, puis que, ben, quand les bandes annoncent, c'est pas toutes les lumières qui ferment, mais peu importe, on comprenez évidemment ce que je veux dire là-dessus, mais de voir ces bandes annonces-là avant le film, c'est toujours un moment, en tout cas pour moi, puis pour bien des gens, je pense aussi, un moment spécial, ça nous... puis après ça, on écoute un film, fait qu'on se dit, bon, ben prochainement, on va être ici pour le film qu'on a vu la bande-annonce de quelques minutes passées ou quelques heures passées. Donc, c'est le fun, ça, tu sais. Puis même si on peut les voir sur YouTube à Star comme qu'on veut, ça reste que il n'y a rien de mieux que les voir au cinéma. J'ai vraiment hâte, puis je sais que on a encore pour un petit bout peut-être ici au Canada, mais ça s'en vient, puis ça va être le fun de retrouver ces petits moments-là, si on veut, tu sais. Bref, c'est ce qui conclut un peu mon sujet que je voulais vous parler. Un petit sujet qui a duré 45 minutes. qui aurait cru? Mais je suis content que j'ai fait cet épisode-là, même si j'étais seul. Mais inquiétez-vous pas, Rudy va être de retour, évidemment, la semaine prochaine, comme que j'ai mentionné au début de l'épisode. Il va être de retour pour nous parler, ben, pour qu'on puisse parler, moi et lui, de Falcon and Winter Soldier. On va aller en détail sur les 6 épisodes. On va focusser là-dessus, en gros, vraiment parler une couple de petites nouvelles ici et là au début de l'épisode, mais on va focusser vraiment le gros de l'épisode sur Falcon et Winter Soldier, puis il y a beaucoup de stock à parler. J'ai vraiment hâte d'en parler avec lui, d'ailleurs. Puis je pense que c'est le genre d'épisode qu'il faut vraiment être... faut être deux pour en parler, parce que ça va peut-être même créer des petits débats. On verra. Mais j'ai vraiment hâte d'en parler. Puis évidemment, il y a plusieurs autres sujets qui s'en viennent aussi. Je viens récemment d'écouter Mortal Kombat. Fait qu'on va faire une revue de ça. Possiblement pour Godzilla vs. Kong, même si ça fait un petit bout. On va probablement faire ça aussi. Donc, il y a plusieurs choses qui s'en viennent. Puis juste aussi, un petit détail avant que je termine l'épisode, j'ai créé une page Facebook aussi pour le podcast. Donc, c'est Nerdverse Podcast, évidemment. Donc, je vous encourage à aller, dans le fond, sur Facebook, à aller voir la page, s'abonner à la page. Donc, juste cliquer sur le petit bouton « like ». Puis moi, dans le fond, la page va m'en servir vraiment pour... tous mes épisodes vont être mis là avec le lien. À chaque fois qu'il y a un épisode, il va y avoir une notification qui va sortir pour vous dire qu'il y a un nouvel épisode. Puis comme l'exemple, on parlait de bande-annonce tantôt. On a parlé du temps de bande-annonce, mais je vais en mettre quelques-unes sur la page Facebook aussi. Comme ça, bien, si vous entendez l'épisode, puis vous savez, vous ne l'avez pas vu ou quoi que ce soit, bien, vous n'aurez pas à chercher bien, bien loin. Je vais en mettre quelques-unes ici et là sur la page aussi. Puis s'il y a des grosses nouvelles qui sortent ici et là sur différents films ou projets, ben, c'est très possible que je les partage sur cette page-là aussi. Bref, ça va être une page où ça va être focusé sur les sujets qu'on parle du podcast. Puis c'est ça. Fait que je vais en espérant vraiment que c'est que vous appréciez là, ce petit moment-là. Puis c'est une façon aussi de communiquer avec moi. Là, si vous avez des commentaires, des messages, quoi que ce soit, là, ou des choses que vous voulez voir sur des futurs épisodes, ben gênez-vous pas pour écrire un message. Sur la page. Donc sur ce, je vous laisse aller là-dessus, puis on va se reparler la semaine prochaine. Là, en ce moment, on est jeudi le 29 avril. Alors, si tout va bien, on devrait enregistrer jeudi ou vendredi prochain dans ce coin-là pour l'épisode. Donc, un peu moins de 2 semaines là, avant, entre les deux épisodes. Donc, sur ce, je souhaite une belle fin de soirée parce qu'ici, il est 9h40 en soirée. Et à plus!